Bienvenue dans le débat. Imaginez un instant perdre la présidence d'un pays de plus de 100 millions d'habitants pour une marge de 0,56%.
C'est vraiment microscopique.
Absolument. C'est exactement ce qui s'est passé au Mexique en 2006. Un écart d'environ 233 000 voix sur 42 millions de bulletins. Et ce scrutin n'a pas seulement été suspendu pendant 2 mois, il a littéralement déclenché l'occupation de la capitale, la création d'un gouvernement parallèle et a même jeté les bases d'une guerre sanglante.
La fameuse guerre contre les cartels, oui.
C'est ça. Alors, la question centrale aujourd'hui, c'est de savoir si cette crise politique majeure est avant tout le résultat d'un naufrage des jeunes institutions démocratiques mexicaines ou bien l'explosion inévitable d'un pays profondément fracturé sur le plan socio-économique. Je défends la première thèse. Pour moi, c'est l'incapacité des autorités électorales à gérer la pression qui a créé un vide propice au chaos.
Eh bien, j'aborde le problème sous un angle tout à fait différent. L'institution, en fait, n'est qu'un détail face à la vraie cause, la division viscérale du Mexique. Felipe Calderón et Andrés Manuel López Obrador représentaient deux mondes radicalement opposés, irréconciliables, qu'aucune procédure électorale, même parfaite, n'aurait pu apaiser.
Mais reprenons la nuit du 2 juillet, si vous le voulez bien.
Allez-y.
Peu avant minuit, Luis Carlos Ugalde, le président de l'Institut fédéral électoral, l'IFE, annonce qu'il n'y aura pas de vainqueur ce soir-là. Pourquoi ? Parce que les marges d'erreur de leur système de comptage rapide se chevauchaient.
Oui, enfin, c'était une décision purement technique et scientifique.
Technique, oui, mais l'institution s'est retrouvée paralysée par ses propres règles. L'IFE avait été conçue comme une soupape de sécurité pour une société nouvellement démocratique. Et quand la pression a monté, au lieu de la relâcher, la soupape s'est complètement bloquée.
Mais cette rigidité technique n'aurait eu aucune importance si le pays n'était pas déjà une poudrière. Calderón, soutenu par le Nord industriel, incarnait la continuité et l'ouverture au marché.
Bien sûr.
Alors que López Obrador, lui, porté par le Sud rural et pauvre, avait fait de la lutte contre les inégalités le cœur absolu de son projet. C'était un véritable choc de classe. Une simple annonce, même plus assurée de la part de l'IFE, n'aurait jamais contenu la frustration d'une moitié de la population. Il se sentait historiquement exclu de la richesse nationale.
C'est vrai, la fracture sociale était réelle. Mais c'est précisément pour cela que l'institution devait être irréprochable. Regardez la suite. Face à la crise, le tribunal électoral décide d'ordonner un recomptage uniquement partiel.
Ils ont suivi la loi.
Ils ont suivi la lettre rigide de la loi, oui, plutôt que de lire l'urgence politique du moment. En refusant d'ouvrir toutes les urnes pour dissiper les doutes, les juges ont eux-mêmes donné du crédit à la théorie de la fraude. Ils ont légitimé le récit de la victoire volée.
Attendez, la réaction de López Obrador montre bien que le rejet dépassait la simple procédure.
Ah bon
Mais oui, quand il lance son mot d'ordre « voto pour voto, casilla pour casilla », donc vote par vote, bureau par bureau, il ne fait pas qu'exiger un recomptage. Il paralyse le paseo de la Reforma avec d'immenses campements.
L'artère économique vitale de la capitale.
Exactement. Il va jusqu'à instaurer un gouvernement parallèle sur le Zócalo, le cœur historique du Mexique, le perdant était prêt à faire sécession institutionnelle plutôt que d'accepter le maintien du statu quo économique.
Vous touchez là le cœur de mon argument. S'il a pu s'autoproclamer président légitime sur la place publique, c'est parce que l'institution légale n'avait plus aucune autorité. Et les conséquences de ce fiasco ont été cataclysmiques.
Sur le plan politique, c'est sûr.
Calderón a été investi en décembre, en passant par une porte dérobée du Congrès. Il était perçu par la moitié du pays comme un usurpateur. Comment on gouverne sans légitimité électorale ?
On s'en fabrique une autre.
Voilà. Il lui fallait un effet de ralliement national. C'est précisément pour cette raison qu'il a immédiatement déployé l'armée contre les cartels. En s'érigeant en chef de guerre, il forçait l'opposition à le soutenir ou à paraître antipatriotique. Cette guerre, c'est l'enfant direct de ce naufrage électoral.
La manœuvre politique est indéniable, je vous l'accorde. Mais n'oublions pas l'onde de choc économique. Pendant que le Zócalo était occupé, les milieux d'affaires retenaient leur souffle.
C'est vrai, le peso a vacillé.
Et les investisseurs ont paniqué. Les États-Unis observaient avec terreur la possibilité que leur deuxième partenaire commercial bascule. Ce que les marchés ont compris cet été-là, ce n'est pas que le système de comptage de l'IFE était défaillant. Ils ont compris que les inégalités mexicaines menaçaient la stabilité même de l'État. C'est la faille socio-économique qui a fait trembler le pays, pas un logiciel.
Pourtant, la réponse politique immédiate du Mexique dans les années qui ont suivi, ça n'a pas été de résoudre les inégalités économiques. Le pays a réformé ses règles électorales, rebaptisé son institut, durci le contrôle des campagnes. Ils ont réparé la soupape pour éviter de rejouer une élection dans la rue.
Des réformes de surface qui n'ont rien réglé aux problèmes de fond. Les deux Mexiques se font toujours face, aujourd'hui encore.
Eh bien, nous avons là deux grilles de lecture fondamentales pour comprendre les bouleversements d'un État. Nous laisserons le soin à nos auditeurs de tirer leurs propres conclusions.
Tout à fait, le débat reste ouvert.
En refermant cette discussion, posez-vous simplement la question. Qu'est-ce qui menace le plus une jeune démocratie? L'incapacité de ses institutions à gérer une crise ou le gouffre des inégalités de la société qu'elle tente de gouverner?